que Mishmael y Kasher y Atal. Y el Efi totalmente que...
Pues sí, el Efi que combatió Kachangash contra los babilonios de mi prisión para Kachangash.
Bon début de semaine à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. En RDC, l'offre des bourses d'études pour l'étranger devient de plus en plus rare ou presque inexistante. Depuis plus d'une décennie, on assiste quasiment à la défaillance du système de coopération en la matière entre le gouvernement congolais et ses partenaires, raison pour laquelle se multiplient actuellement des initiatives privées à travers le pays qui offrent des facilités, orientent et poussent des filles et fils de la RDC à l'étranger. Disons à intégrer des grandes universités du monde. Une certaine opinion estime plutôt que ces initiatives non suivies par le gouvernement exposent les requérants à des formations non adaptées. Alors, qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour participer en direct dans cette émission. Nous avons Julie Feza Bongunda et Pierre Lamigi qui réalisent ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungebo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à Héritier Sidiakala qui assure la mise en onde de ce programme. Nous avons dans cet studio, en attendant d'ouvrir les standards pour recevoir ou accueillir les auditeurs qui vont participer dans ce débat, la thématique autour de l'offre des bourses d'études pour l'étranger. Bertin Goy, coordonnateur général de FEMAS, la fondation Les Ennemis de la Misère en Afrique. Bonjour Bertin.
Bonjour.
Alors Bertin, aujourd'hui, toutes les critiques portées contre toutes ces initiatives privées sont-elles fondées aujourd'hui?
Fondées d'un côté, d'autre non. Je vais m'en expliquer. Je suis coordonnateur d'une structure qui existe bientôt 10 ans. Nous avons plus de 8 ans d'expérience dans les programmes d'éducation internationale. Quand vous prenez, par exemple, ce qui concerne l'éducation ou les études à l'étranger, les structures privées apportent une contribution. L'État aussi. Bien sûr qu'il y a ces problèmes d'encadrement. Quand je prends notre exemple personnellement, nous avons commencé depuis 2007 pour faciliter les candidats qui vont étudier à l'étranger. Je suis un exemple typique moi-même. J'ai piraté une bourse d'études au niveau des affaires étrangères. Je crois que c'était vers 1999, je pense. Quand j'ai fini mon
diplôme. À l'époque, le système marchait.
Pas de problème. J'ai piraté. C'était en 99, j'ai raté une bourse. Vous voulez mettre sur certains délais, maintenant, n'était plus que j'ai étudié. Mm-hmm. C'était pour aller étudier au Kiba. J'avais fait tout, les passeports et même tout. Bon, ça m'avait un peu frustré, mais j'ai pris mon courage d'étudier ici.
Mais qu'est-ce qui s'était passé concrètement?
Bon, je n'étais pas...
Vous n'avez pas rempli les conditions à l'époque, avec la coopération, les affaires étrangères, et dans le partenariat RDC avec d'autres pays, ça marchait sans problème.
Moi, je n'en sais pas plus important, c'est qu'il y avait plusieurs noms, mais en dernière minute, il y avait quelqu'un qui était retenu, et même d'autres qui s'étaient, d'autres mecs qui s'étaient improvisés. Bon, ça, ce n'est pas mon problème.
C'est le problème soudain.
On va
pouvoir dire. Il y a d'autres qui sont improvisés, et qui sont partis, et vous qui avez rempli peut-être les conditions, vous n'êtes pas parti.
Ah, ben oui, je suis même resté avec des preuves pour cela. C'était pour Kiba et puis pour l'Algérie. Bon, voilà, une petite chose malheureusement. En fait, ça m'a donné l'inspiration de voir que, voilà, si déjà, au niveau donc, de cette problématique, on a cette difficulté. Alors, il y a même des parents qui ont des moyens, mais qui ont des difficultés pour faire étudier le candidat à l'étranger. C'est un problème très sérieux. Vous vous rappelez qu'en deuxième république, il était difficile qu'un privé comme ça, un parent agriculteur, qui que ce soit, qu'il aille faire étudier son enfant à l'étranger. C'est un problème, c'est un privilège d'une certaine catégorie donc, de classe. Mais actuellement, avec l'initiative de privé, même un parent d'un agriculteur qui se trouve plus loin, je peux prendre Benika Singhi, Kabinda, je peux prendre Kasumbalis ailleurs, fait étudier son enfant à l'étranger dans des grandes universités facilement. Ça, c'est un point très positif. FEMAFAN a contribué. Nous avons plus de 1010 étudiants déjà donc facilités pour les études à l'étranger. Et ces candidats, nous les recrutons dans plusieurs provinces de la RDC et au niveau de l'Afrique. C'est un point.
Mais entre temps, il y a aussi parmi ces initiatives privées des arnaqueurs.
C'est normal, c'est normal. Vous savez, il y a des improvisations.
Ils ont beaucoup de filières aujourd'hui au niveau de la vie.
Voilà.
Voilà, donc on sent qu'il y a quand même de l'arnaque.
C'est normal. Il y a des opportunistes. Pourquoi il y a cela? Nous, par exemple, pourquoi nous n'envoyons pas les candidats NEMS? Je me demande pourquoi. Nous avons un système où, avant d'envoyer des étudiants, premièrement, personnellement, en tant que coordonnateur, je me déplace pour arriver dans ces pays-là. Si je n'y arrive pas, il y a deux représentants qui nous représentent, qui doivent avoir d'abord les conditions et puis mettre un représentant. Il faut qu'il y ait un représentant qui encadre les candidats avant d'envoyer le étudiant à l'étranger. Beaucoup d'universités d'Inde m'ont proposé, beaucoup de structures nous ont critiqué, nous ont dit des imbéciles qui refusaient des universités faciles, qui parfois proposaient même de l'argent comme commission. Maintenant, moi j'ai ma fille.
Alors pourquoi ne pas offrir des bourses d'études au Congo par exemple? Ça aurait résolu peut-être une bonne partie de difficultés qu'on rencontre en ce qui concerne des démarches administratives pour que l'étudiant rejoigne peut-être les universités du monde.
C'est bien. Qui va offrir le bourse de titre premièrement? C'est la question. Et là, il y a deux manches de choses. La bourse se cherche. On doit chercher la bourse. Il y a l'État qui fait son effort pour chercher la bourse. Mais nous avons aussi trouvé que l'État seul, nous l'avons vu, les bourses qui viennent parfois s'arrêtent au niveau de Kinshasa. Moi, je tourne les provinces, hein, je fais des provinces, je tourne toutes les provinces pour faire des salons de conférences. Mais il y a des parents qui sont en province qui sont limités de pouvoir, par exemple, intégrer cette bourse-là. Nous nous sommes battus de notre côté, où nous arrivons à obtenir parfois des bourses partielles. C'est-à-dire quoi? Un candidat, par exemple, qui devrait payer le frais d'études, supposons 5 000 $, avec notre intervention en tant qu'énorme de développement auprès de partenaires d'université, les parents ne payent que la moitié. C'est une bourse partielle. Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons découvert encore donc, de grands partenaires d'Allemagne. Vous savez que les études universitaires en Allemagne sont gratuites. Donc pour un étranger, c'est une bourse.
À l'université,
mais bien sûr. Mais pour y intégrer, ce n'est pas facile. Nous avons signé un partenariat avec une grande structure qui s'appelle Eurésia. C'est une structure qui envoie plus ou moins 600 étudiants par année qui quittent les zones d'Obson pour aller étudier en Allemagne. Nous avons signé un partenariat pour faciliter les candidats congolais et même de la RDC et de l'Afrique d'intégrer les grandes universités, les top universités, les universités publiques. Donc, pour étudier,
avec tout ça, quel est l'appui de l'autorité congolaise, du gouvernement congolais par rapport à toutes ces initiatives privées? Est-ce que vous avez quand même un appui de la part des autorités?
Je voulais maintenant y arriver, entrer dedans. Vous savez, oui. Quand vous êtes inscrit, vous créez une structure, une objet, il faut d'abord avoir une vision. Quand vous avez une vision, vous saurez bien évoluer. Il ne faut pas créer des choses comme des opportunistes. On a fait la structure, on a quand même fait le document de fonctionnement, mais il faut dire que si nous avons un accompagnement, nous avons un appui plus, on peut faire plus aussi. Pourquoi? Je vais donc m'expliquer comme je vois avec nos collègues de Nigeria et dans d'autres pays qui répondent. Vous prenez, par exemple, la difficulté que nous croisons pour le déplacement. Je vous dis bien, pour négocier une bourse, il faut se déplacer, il faut aller croiser les universités avant toute chose. Mais pour le déplacement, avec nos passeports ordinaires, par exemple, on peine. Moi, j'ai un visa maintenant qui traîne, ça fait maintenant plus de 4 mois que ça traîne au niveau de Schengen. Je devrais aller en Allemagne pour ce contrat dont je vais parler. Mais ça traîne parce qu'on voit, c'est un visa, c'est un passeport ordinaire. Même s'il y a beaucoup de visas déjà dedans, ça prend du temps, il y a beaucoup d'exigences. Si par exemple, nous sommes appuyés par exemple à ce point-là, on peut faire plus.
Donc, les gouvernements pourraient faciliter.
Bien sûr, pas seulement.
Mais les initiatives à pouvoir mener ces démarches correctement.
Mais bien sûr, nous sommes d'ailleurs en attente d'un document du ministère de la Coopération. Nous avons écrit pour un partenariat qui nous permettrait donc de pouvoir beaucoup plus faire. Parce qu'avec ces partenariats, vous savez qu'on peut même exciter les universités étrangères de venir aussi donc s'installer chez nous, par exemple. Par rapport toujours à l'appui donc, du gouvernement qui fait son travail très bien, mais il y a des choses qui sont peut-être, je peux dire, peut-être ajoutées au niveau du ministère de l'ESURES. Bien sûr. Nous, quand nous nous rencontrons avec d'autres structures serres de plusieurs pays de recrutement comme nous, de facilitation d'études, nous voyons ce qui se passe aussi ailleurs, nous allons les proposer. Nous avons écrit, il y a même, depuis 2009, on a écrit une première note au ministère de l'ESURES. Donc, c'est adressé directement au secrétaire général qui gère l'administration. Nous avons rénové cette note-là dans l'année passée pour solliciter un partenariat direct avec ce ministère. Ce partenariat nous permettra ceci. 1.
nous pouvons facilement avoir des bourses d'études pour les universités. Parce que nous, on ne peut pas se présenter au nom d'université sans l'autorisation de l'État pour obtenir une bourse, par exemple, pour les professeurs assistants.
Mmh.
Il y a des bourses qui chôment au niveau de la Russie, il y en a dans beaucoup de pays qui chôment. Partout ailleurs, des structures comme nous, qui sont organisées, sont toujours affiliées au ministère de l'Éducation. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Éducation qui donne l'agrément. Vous ouvrez ça dans des pays comme la Trinité, c'est le ministère de l'Éducation qui donne l'agrément. Mais nous sommes allés vers. En attendant, même jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu ces documents-là, qui nous permettraient, par contre, même de faire venir des professeurs,
de venir de professeurs.
Bien sûr, vous allez parler au nom de l'université, vous allez parler au niveau, donc, au nom de l'université. Pour quel nom? J'ai une structure sœur de l'Ouganda qui s'appelle CIE, Centre international, Centre d'éducation internationale. C'est une structure partenaire. Elle est agréée par le ministère de l'Éducation et travaille en partenariat avec Makerere, Makerere Université. Beaucoup de bourses viennent à tout moment à travers cette structure qui permet à les candidats de Makerere à étudier dans beaucoup de pays, peut-être gratuitement. Vous voyez, c'est là, il y a la complémentarité. Nous, nous tentons de faire ce qu'il faut faire et nous, nous laissons.
Est-ce que tout ça, ce n'est pas lié à un cadre juridique qui n'existe pas pour protéger peut-être ces genres de facilitations ailleurs, peut-être, oui, parce qu'on n'a pas assez d'éléments par rapport à ça, mais aujourd'hui, est-ce qu'il sera question de décentraliser cette facilitation? C'est comme si l'autorité, le gouvernement, donc il faut vraiment un cadre juridique.
À ce point-là, vraiment, j'encouragerais la décentralisation,
pourquoi facilitation.
Facilitation, ça peut être décentralisé. Il est difficile, je vous donne un exemple, il est difficile. Je donne l'exemple de l'Allemagne. Les universités donnent, donc vous étudiez gratuitement, mais il faut des structures appropriées pour faire inscrire. Quel est l'intérêt que l'université qui fait étudier gratuitement a pour quitter l'Allemagne, venir au Congo, aller dans des provinces pour recruter les candidats? Non, il faut des structures comme nous. Qui doivent mettre.
Alors, une question de curiosité des universités ou encore de structures, hein, sœurs, des structures qui travaillent en partenariat avec vous ailleurs, par exemple, pour nous faire une idée, combien, par exemple, de candidats ou de requérants obtiennent facilement des études à l'étranger
par rapport
à notre pays?
Oui, il faut le dire, pas seulement par rapport à la RDC. Je vous ai dit que nous, notre programme.
Ailleurs, nous pouvons prendre le Nigeria ou l'Ouganda.
Je voulais y arriver. Notre programme est panafricain. Nous inscrivons les candidats de RDC, de Brazzaville. Je sais balancer les nombres de candidats qui partent. Je suis sincère, en Afrique, c'est le Nigeria qui est le premier à envoyer des étudiants à l'étranger. Un nombre
autour de combien?
Je vous dis, je donne un exemple. Je donne un exemple spécifique. Nous, quand nous envoyons par exemple des candidats qui vont étudier comme à l'Université américaine de Chypre, c'est un partenaire, nous arrivons à envoyer peut-être 30-40 étudiants par année, mais ici, 400-500. Vous comprenez? Et ça a de l'impact. Je vais expliquer. Même dans plusieurs pays du monde, si vous vous renseignez, c'est le Nigeria qui est au top. La plupart des universités internationales aujourd'hui descendent au Nigeria pour recruter les candidats afin qu'ils aillent étudier à l'étranger. Et ça a de l'impact sur l'économie du pays. Je peux m'expliquer.
Voilà. Donc, on va revenir sur l'impact d'associer dans cette émission les auditeurs sur cette question des facilitations d'études à l'étranger. Ceux qui s'en souviennent, donc, c'est de la génération avant 90. Ils savent que le système marchait tout à fait correctement. Il y a ceux-là qui ont présenté même des tests pour aller poursuivre leurs études universitaires en Chine ou encore ailleurs, en France, en Belgique ou partout au monde. Mais aujourd'hui, et c'est vrai, bon, tout le monde décrit un peu ou dénonce cette affaire des choses, le clientélisme. Il y a ceux qui sont qui remplissent même des conditions, mais qui ne vont pas en dernière minute. C'est d'autres personnes qui prennent la place. Nous en venons d'ailleurs de suivre les témoignages de Bertrand lui-même, qui est le coordinateur de FEMAS, la Fondation Les Ennemis de la Misère en Afrique, qui organise ces participations. Donc on va associer les auditeurs qui nous ont rejoints. 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous allons ouvrir ce débat avec vous, Félicien. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs et à notre invité.
Alors, quel est votre commentaire par rapport à la thématique relative à la facilitation d'études à l'étranger? C'est vrai, dans le passé, ça marchait quasiment bien. Aujourd'hui, on a quelques difficultés parce que, bon, finalement, l'offre devient un peu compliquée.
Oui, effectivement, il y a un problème de coopération dans notre pays. Ce n'est pas seulement dans le domaine des bourses d'études, mais presque dans tous les domaines. C'est un indice qui démontre que les partenaires ne nous considèrent plus et ils ne prennent plus au sérieux. Moi, je pense qu'en tant que pays qui aspire à devenir émergent, nous devions plus chercher les transferts de technologies. Et cela ne peut passer que par la formation de nos jeunes dans des universités de grande renommée à travers le monde, je pense. Mais on constate par contre que le système de bourse, comme vient de dire l'invité, et surtout les bourses d'État, tant du fret, comme il a disparu aussi le système de faire appel aux profs et enseignants étrangers, ce qui a aussi contribué à la baisse du niveau de l'enseignement secondaire et universitaire chez nous. Parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait des Français qui venaient de partout pour entraîner ici, que ce soit des cours secondaires. Moi-même, j'ai été entraîné par des Américains, par des Slaves, tout ça. Et je suis venu des Roumains, plutôt. Il y avait au moins presque tout le monde qui venait ici pour enseigner. Et quand nous parlons du niveau de l'enseignement, nous devons tenir compte de cela aussi. Dans les universités, on n'en parlait même pas, on avait des professeurs étrangers, des blancs qui venaient, qui entraînaient. Aujourd'hui, nous sommes restés de même. Moi, je pense que aujourd'hui, ce que nous vivons avec les agences là, qui font voyager les jeunes gens, et souvent des prix dont les parents ne peuvent même pas être capables de supporter, et ils vont dans quelle université, pour quelle formation. Et ils vont généralement pas pour des études de qualité, et on les envoie dans des pays de l'Europe de l'Est. C'est simplement, comme je l'ai dit, du côté du niveau de bourse qu'on a des problèmes. Mais on a des problèmes partout.
Est-ce que vous êtes d'avis que, disons, la multiplicité de ces agences, ce n'est qu'une réponse à la défaillance du système de coopération à la matière aujourd'hui?
Exactement, parce que l'État a vraiment, de ce côté-là, failli, parce que, d'abord, c'était l'État lui-même qui n'était pas organisé, avec la corruption, avec le tribalisme, mais tout ce qu'il y avait. Les bourses n'étaient pas gérées comme on devait les gérer pour l'intérêt de la République, mais c'était pour des trains, pour des familles, parfois des gens qui partaient, c'est des gens qui n'allaient pas pour les études, qui allaient faire autre chose, mais qui obtenaient des bourses d'État et qui venaient. Et les partenaires ont compris que nous ne sommes pas sérieux et ont commencé vraiment à nous gérer comme on nous gère maintenant. Et puis, c'est pas seulement dans ce domaine, même les visas en général, et dans tous les domaines, ça devient compliqué pour en avoir dans ces pays. Vous voyez des pays aussi, même des pays comme la Chine et l'Afrique du Sud, où les gens n'avaient pas de fonds pour obtenir un visa. Et aujourd'hui, on peine pour en avoir. C'est-à-dire que nous, on ne considère plus, on ne prend pas au sérieux, et cela devrait être une préoccupation pour un gouvernement responsable, parce que nous ne devons pas recevoir nos partenaires chez nous sans problème, mais nous, pour nous déplacer à l'excuser, nous peinons, ça, c'est pas normal. L'exemple de l'invité qui attend depuis des mois, non, ça, c'est pas normal pour sortir du pays. Donc, moi, je pense que c'est un indice. Et les gouvernements doivent en tenir compte. Pourquoi nous étions respectés avant? Pourquoi maintenant on ne nous respecte plus? Pourquoi on ne nous considère plus? C'est pas normal.
Voilà, alors vous avez évoqué la problématique du tribalisme dans cette parmi les conditions pour intégrer au fait des bourses d'études à l'étranger. Ça me rappelle d'ailleurs les autorités du pays, la Deuxième République, qui avaient même reproché ce genre de comportement où à une certaine époque, je crois que les gens de cette génération s'en souviennent, tout un ministre de l'ESU, d'une certaine tribu qui avait facilité les étudiants de cette tribu-là pour aller à l'étranger. Donc ça a posé même des problèmes. Merci beaucoup, Félicien, d'avoir donné quelques conseils. Aussi longtemps que l'RDC est un pays qui aspire à l'émergence d'ici 2020 ou 2030, il faut déjà penser au transfert des technologies et encourager, mais à condition que le gouvernement puisse avoir un regard sur toutes les agences qui naissent et pourquoi pas faciliter à ces agences d'être une solution palliative à toutes les difficultés que rencontrent les gouvernements dans cette coopération. Merci beaucoup, Félicien. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. Je lui dis merci d'avance pour la clarté avant le débat.
Voilà, votre point de vue, Franck. Vous êtes en Autriche et vous côtoyez parfois les universités allemandes, en Allemagne, donc vous pouvez peut-être nous faire quand même un témoignage aujourd'hui. Est-ce que la diaspora congolaise, en tout cas en matière de pour l'étude à l'étranger, est-ce que ça marche bien?
Oui, merci beaucoup. Vous savez que moi j'ai fait une partie où je suis en train de faire une partie de mes études universitaires à l'étranger. Donc quand on intervient parfois pour dénoncer, il y en a qui pensent qu'on exagère, et je suis aujourd'hui personnellement content que notre invité ait dit tout haut ce que nous disons parfois et quelquefois tout bas. La thématique d'aujourd'hui, selon moi, c'est déjà la conséquence d'un certain manque de politique nationale sur la formation universitaire des citoyens congolais RDC en général. Comment cela c'est vraiment si d'abord nos compatriotes qui étudient sur place chez nous, au pays, ne sont pas pris au sérieux. Comment serait-ce autrement si parfois le traitement des professeurs d'université est médiocre? Est-ce qu'il y a des lignes de conduite claires de la politique de notre gouvernement sur la formation universitaire de Congolais? Je ne sais pas, bon, quand il y a un membre du gouvernement qui passe là au studio, on argumente, mais parfois ce qui est argumenté sur vos ondes n'est pas conforme et proportionnel par rapport à la réalité. Monsieur le journaliste, vous savez que dans certains pays, là où l'histoire marche convenablement, on forme des citoyens dans certains domaines sur base des besoins du pays et aussi avec la possibilité de les employer après leur retour. Ainsi, quand certains citoyens obtiennent des bourses, ils vont se faire former pour rentrer travailler chez eux. Est-ce que cela est d'abord le cas chez nous? Est-ce que chez nous, on serait à mesure de nous donner d'abord aujourd'hui des statistiques du nombre des étudiants congolais qui évoluent à l'étranger? Moi, personnellement, j'ai été boursier au niveau de licence à l'université d'Innsbruck en Autriche de 1998 jusqu'en 2003. Je fais la théologie, la philosophie et les sciences sociales entre 1998 et 2003. Mais pendant les 5 ans, je n'avais jamais vu, je vous dis clairement, je n'avais jamais vu une seule fois une délégation de nos représentations diplomatiques, soit en Autriche, soit dans le pays voisin de l'Autriche, arriver là sur place pour s'enquérir un peu de la situation ou pour voir comment on est en train d'évoluer. Mais qu'est-ce que nous constations? Les Latino-Américains, les amis de l'Afrique de l'Ouest, même de l'Afrique de l'Est, les Tanzaniens, ils avaient quelquefois, deux fois par an, des visites de leur représentation diplomatique. Ça signifie quoi? Au niveau déjà de leurs ambassades, au niveau de leurs consulats, les études de leurs citoyens sont encadrées et suivies, si bien que vers la fin des études, quand on sait qu'il va défendre sa thèse ou bien des licences ou du doctorat à tel moment, on arrive déjà pour l'encadrer, lui faire des offres d'emploi au pays. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Alors, par rapport aux offres même de certaines bourses, ne serait-ce que seulement selon des affinités sociales et relationnelles. Alors, quelqu'un qui n'a pas rempli les critères objectifs pour bénéficier d'une bourse, quand on le lui accorde, il arrive quelque part, s'il devait faire la médecine, le droit par exemple, alors qu'il n'a pas de capacité requise pour ça, il va se retrouver ailleurs. Alors, comme il a des complexes pour n'avoir pas fait, c'est pourquoi il était sorti du pays, il ne s'est plus rentré au Congo, oui, il reste là, il préfère se débrouiller autrement. Ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, il y en a qui sont arrivés, ils ont étudié, ils rentrent au pays pour aller travailler, mais sur place, les conditions d'accueil ne sont pas parfois favorables pour lui permettre de s'intégrer. J'en profite pour dire que pour le moment, par exemple, il y a un des amis à moi qui est rentré au pays pour enseigner à l'université de Kikwit, mais parfois, on est en train de lui faire voir des histoires de toutes sortes. Alors, dans ce conditionnement, quel courage auraient les autres qui voient tout ça et se préparer pour rentrer au pays? Donc, pour me résumer, il y a absence totale
de la politique nationale, la politique
gouvernementale,
sur la formation
des citoyens congolais
dans l'université
du monde. Cette histoire de partenariat, ça peut exister s'il y a des gens qui s'intéressent, mais ça n'a plus jamais existé. Ce que l'invité venait de dire, c'est vrai, quand vous êtes dans des universités allemandes à Wiesbourg, vous allez voir que sur les 10 noirs que vous rencontrez, il y a peut-être 3 Camerounais, 3 Nigériens. Il y aura à peine un Congolais ou bien demi. Donc les autres, ils en profitent pour envoyer leurs étudiants et nous on reste. Et quand il y a des opportunités, au lieu d'envoyer les étudiants qui répondent aux critères, on va prendre les gens qui ne répondent pas aux critères. Mmh. Et tout ça, on est en train d'étouffer le rayonnement intellectuel de l'avenir des Congolais.
Voilà, c'est déjà un problème pour...
Le gouvernement aura encore tout intérêt à se pencher là-dessus. Et moi, je dis que de telles initiatives, par rapport à ce que l'invité venait de dire au studio, ce sont des initiatives encouragées. Parce que nous, parfois, on se demande de retenir des inscriptions à certains amis. Mais quand ils arrivent ici, ils sont sans bourse, ils sont sans logement. Parfois, c'est facile pour les assister. Il faut vraiment avoir du cœur pour les assister, trouver un peu d'argent, placer sur son compte pour qu'ils prolongent le séjour. Et ça s'organise. Mais s'il y a des structures, des ONG qui sont là pour faciliter la tâche comme ça, pourquoi n'encouragerions-ils pas de telles initiatives?
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. C'est vrai, manque de politique nationale sur la formation universitaire. La réponse, c'est des initiatives privées, entre autres avec la Fondation Les Ennemis de la Misère en Afrique, FEMAF. Bertin Goy, vous venez de suivre, c'est vrai, aujourd'hui, Franck a évoqué l'aspect conditionnalité, les critères pour accéder à cette offre de bourses. Quelles sont les conditions aujourd'hui au niveau de FEMAF? Comment vous vous organisez pour appuyer, en tout cas pour remplacer, pour résoudre ce problème de déficit là au niveau de la coopération entre le gouvernement et ses partenaires?
Je salue d'abord donc les analyses, le point de vue que ça donne à notre façon, très fondé. Mais moi je voulais ajouter aussi un point de dire que les responsabilités sont partagées du côté de la population et du côté des institutions. Et avant que je ne réponde à votre question, parce que moi je souhaite la misère à 3 niveaux typiques. Il y a la misère mentale. La misère mentale, parce que pour moi, je dis bien que la richesse, la misère ou encore donc le bonheur, c'est avant tout l'état mental de la personne. Et il y a la misère institutionnelle, et puis vient la misère physiologique qui suit le reste. C'est comme ça que moi j'analyse donc la situation de misère. Parfois nous aussi, Africains ou Congolais que nous sommes, nous pouvons exagérer certaines choses nous-mêmes. C'est-à-dire, la guerre, il y en a eu partout. Les crises ou la misère, il y en a eu partout. Quand vous prenez l'exemple des États-Unis, vous prenez l'exemple de l'Allemagne, dont nous parlons aujourd'hui, vous prenez l'exemple de la Russie, ils ont connu des pertes énormes parce que c'était presque le champ de bataille que l'Afrique n'a pas connu. Voyez-vous? Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ressortent de la situation misérable, de la misère physiologique, même institutionnelle, pour arriver, karma, donc à remonter la pente? C'est tout simplement une jeunesse, et si une jeunesse perdue de connaissances. Et nous disons que une jeunesse mieux formée est une thérapeutique de choc contre la misère et la pauvreté au niveau de l'Afrique. Le plan Marshall a pu sauver les États-Unis, vous prenez l'Allemagne et autres, ils sont partis de la misère totale avec le mental fort, l'intelligence, on a changé, et puis les pays aujourd'hui sont des pays développés. Cela veut dire que donc, la responsabilité est partagée aussi à nous-mêmes au niveau de Congolais. Je suis une structure qui accompagne les candidats parfois à l'étranger, je lis parfois donc le
comportement tribalisme, clientélisme dans les choix des candidats.
Si cela existe, alors pourquoi même la structure doit exister? Donc ça n'a plus de sens. Si cela peut exister, pourquoi exister? Même au niveau de l'État, il n'y a pas toujours tellement de tribalisme, mais ce qui est un problème, c'est un problème de suivi. La bourse, on l'accorde à qui? La bourse, on l'accorde premièrement à quelqu'un qui réunit les conditions, mais qui est dépourvu. Ça s'appelle une question. Qui est dépourvu des moyens? Cette personne, prioritaire, donc sont les enfants des fonctionnaires, principalement en avance, et puis j'aime d'autres. D'autre part, ce sont des candidats excellents à qui on accorde la bourse. Voyez-vous, je connais personnellement, j'ai trouvé beaucoup de candidats qui ont obtenu une bourse, comme notre frère Vendel dit, il a obtenu une bourse à 100%, peut-être, il a obtenu au niveau de l'État. Mais vous le trouvez, il a déjà abandonné les études. Il n'a pas inquiété, il n'est pas interpellé.
Il gâche comme ça. Donc, parce que c'est la filière de prédilection, il n'a pas suivi, bon, il s'est retrouvé dans une autre filière qui ne l'intéresse même pas.
Pas du tout. Il y a des faits, même qui ont suivi la filière de prédilection, il arrive. Oh, il voit la vie là, peut-être il est facile, il abandonne les études alors qu'il a la bourse de l'État.
Alors, comment vous vous faites au niveau des FEMAP pour encadrer? Parce qu'en ce moment, nous sentons qu'il y a, ce déficit au niveau du gouvernement.
Avant de dire comment nous faisons, laissez-moi quand même finir mon point de vue. Nous pouvons encore améliorer Hein? Notre gouvernement. Oui, c'est possible d'améliorer facilement. Le gouvernement peut simplement instruire à nos ambassades au niveau de l'étranger de pouvoir commencer à contrôler ces candidats. Mm-hmm. Deuxièmement, le ministère de l'Éducation, le ministère de la sur les bourses, quand on envoie un enfant pour aller étudier, il doit envoyer une note à l'université. Que cet enfant, dès qu'il termine, allez, retour au pays. C'est faisable. C'est faisable. Ou si c'est difficile, il peut même s'associer, peut-être signer la collaboration avec des structures privées, comme ça, juste pour un suivi. Parce que le problème de suivi est très sérieux, même qui inscrivent des candidats. Il y a un candidat qui peut venir à l'étranger, il commence à étudier. Mais son papa peut-être lui envoie plus d'argent, il peut commencer à te bouder, mais dit, toi, tu veux me contrôler, tu me dis que j'ai fait beaucoup de dépenses, l'argent de mon père, laisse-moi. Oui, il y a toujours partout des difficultés, mais qu'il faut voir comment. Comment nous arrivons à nous intégrer là-dessus? Premièrement, nous n'avons pas conditionné l'obtention d'une bourse ou bien une faveur avec la question pourcentage. Ce pourcentage obtenu sur les papiers. Quelqu'un peut avoir 80%, mais bien chez nous, dans l'inscription, on les déclasse parce que moralement, il n'est pas bon. Mais quelqu'un qui a 50%, on lui facilite à avoir une opportunité d'aller étudier, par exemple, avec 50% de frais d'études. C'est d'abord ce premier point-là,
des choses. 50% de frais d'études.
Mais bien sûr.
Dans une université où on paye, par exemple, aujourd'hui, déjà venu à 58 000 dollars, vous, FEMAF, vous sortez comme ça, du coup, 26 000.
Mais l'université diffère. Il faut connaître d'abord les systèmes d'éducation de chaque pays. Pas qu'on sort. Non, c'est-à-dire, je suis très clair. Je prends l'exemple de Durham American University. C'est une université partenaire. Cette université qui est née à Chypre Nord, aujourd'hui dans 5 États aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ils sont en Turquie, à Singapour. Vous voyez? Parce que les gens parfois se trompent, ils pensent que non. Pour avoir un diplôme américain, une formation américaine, il faut nécessairement être aux États-Unis. Ou bien pour avoir un diplôme français, il faut nécessairement être en France. Non, c'est pas ça. Sinon, les Français ne quitteraient pas la France pour aller en Roumanie. Ils sont nombreux. Ils font la médecine en Roumanie.
Mm-hmm.
Ils sont nombreux. Ils suivent quoi? Les coûts d'études est moins. Et la formation est aussi bonne.
Mm-hmm.
Voyez-vous? Donc,
il faut qu'on puisse vous canaliser. C'est vraiment, en fait, c'est ce travail-là d'accompagner le. Voilà.
Alors, ce qui intéresse, c'est une éducation certifiée, mm-hmm. une éducation de reconnaissance internationale.
Ce ne sont pas des formations non adaptées.
Je vous laisse dire que nous avons éducation à l'apprentissage université. Nos candidats étudient avec une bourse de 50%. Les parents paient la moitié de frais d'études, c'est 5 000. Le maximum 5 000 euros, minimum 4 500 euros, mais les parents paient la moitié. Chaque année, jusqu'à ce qu'il va terminer ses études. Voyez-vous, ça donne déjà courage
à la maladie. Fondation paye les restes.
Non, on ne paye pas les restes. Dans notre
la bourse de l'université, vous
nous négocions avec l'université pour que nos candidats bénéficient de cette bourse-là. Et cette réduction de bourse, comme je vous ai donné l'exemple de la maladie. Voilà un peu comment.
Alors, on va prendre Cédric qui nous a rejoint également. Et Bashi, Arsène Akikwit et Jonathan à Kinshasa. Cédric, vous êtes avec nous, bonjour. Cédric, vous êtes avec nous?
Bonjour, Pierre.
Oui, votre point de vue, Cédric, par rapport à la thématique qui fait l'objet du débat aujourd'hui.
Oui, le problème des bourses, pour moi, je salue d'abord et je salue également notre invité du jour. Mon problème, c'est porte sur l'état mental de notre gouvernement. Parce que le gouvernement, je dirais, il y a l'organe qui contrôle le gouvernement, ce sont les députés. Alors, nous, on a placé notre confiance aux députés. Concernant le problème des bourses, ce n'est pas un problème qu'on doit faire une discussion. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, on nous considère, nous, la RDC, comme étant le pays des analphabètes. Alors, pour relever ces défis, nous devons prendre soin. Bon, je parle concernant les défis. Ils doivent poser une loi ou soit interpeller le ministre de l'Éducation pour finalement tabler sur l'octroi des bourses. L'octroi des bourses à notre pays. Les bourses, d'ailleurs, doivent être payées à tous les niveaux possibles. Alors, donc, au niveau des humanités, au niveau aussi de l'école primaire, pourquoi? Parce que ça encourage les étudiants ou surtout les élèves à fournir beaucoup d'efforts pour avoir ces bourses-là. Dans les cas où vous parlez beaucoup plus avec notre invité, vous vous basez seulement sur ceux-là qui ont les moyens d'en avoir, d'aller étudier ailleurs et ils aillent s'en aventurer là-bas. Mais pensez aussi à ceux-là qui n'ont pas de moyens, ceux-là qui étudient. après avoir vendu, par exemple, les tombées, après avoir fait des lourds travaux, mettre à ces gens-là, avec leur intelligence, ils peuvent fournir des grands efforts pour finalement avoir aussi la bourse pour aller étudier à l'étranger. Et cela va beaucoup stimuler les étudiants, sauf les élèves du Congo, à beaucoup étudier et ils vont se retrouver ailleurs. Si quelqu'un va ailleurs et il laisse les études, il va à ses occupations. Bon, c'est là, c'est pas toujours le cas au Congo.
Voilà.
D'ailleurs, ça se passe.
Voilà, merci beaucoup Cédric. Donc pour vous également, vous rejoignez la position des Féliciens qui parlaient tout à l'heure de l'implication du gouvernement par rapport à tous ces systèmes qui naissent donc à travers les pays pour accompagner les étudiants à poursuivre leurs études à l'étranger, afin que cela soit fait correctement et dans des conditions favorables à tous. Merci beaucoup. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Monsieur JR et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole Arsène.
Ok, moi je crois que, à mon avis, je vais suivre un peu ce que Franck venait de dire. Je crois que quand on donne une bourse, il y a un idéal qu'on veut atteindre. De cet idéal-là, on doit voir quel est le besoin. Qui a besoin de quoi? Ici chez nous, il y avait des bourses à tous les niveaux. Moi je prendrai l'exemple de l'école où je suis sorti. À chaque fin d'année, on prenait des élites qu'on envoyait en formation, précisément en Belgique. En retour, les élèves qui allaient en Belgique, ils allaient prendre une formation, une spécialité, ou voire même faire l'université, pour revenir apporter les nouvelles technologies au niveau national et apprendre aux jeunes qui viennent après ce qu'ils sont allés apprendre en Europe. Après, on va constater que on dirait que le pays n'avait pas besoin de ceux qui allaient apprendre en Europe pour venir ici et mettre en pratique ce qu'ils sont allés apprendre. Je prends l'exemple de mon jeune frère. Je ne vais pas très loin. Mon jeune frère reçoit une bourse. Il va prendre une formation en Europe. Au retour, il devait rentrer pour venir travailler ici, pour venir enseigner. Il est buté en quoi? Il est buté par un groupe des aventuriers qui arrivent, qui font la guerre, qui détruit même ce qu'on avait préparé. C'est un exemple palpable. Je peux même citer cet exemple-là. Les jésuites ont fait un projet, le projet Mamboma. Alors, parmi les gens qui devaient organiser ce projet-là, industriels, on devait avoir des usines de cornebuf, des usines de conserveries. Mais alors, on envoie des techniciens qui vont là-bas prendre la formation pour venir travailler ici. Qu'est-ce qui se passe chez nous? On protège ce bien, puis l'Afdel arrive, ils vont là-bas, ils détruisent. Mon jeune frère, vous rentrez, mais vous ne pouvez plus rentrer. Il te dit, mais mon frère, je vais rentrer, pourquoi faire? Ce que j'ai appris, qu'est-ce que je viendrai faire avec? Maintenant, ce sont les Européens qui utilisent son intelligence au lieu que les Congolais puissent bénéficier. Ça, c'est de un. De deux, ceux qui dépensent de l'argent pour apprendre à quelqu'un, nous n'allons pas en Europe parce que nous voyons les immeubles, les voitures, ainsi de suite. Nous allons apprendre pour venir travailler ici chez nous pour que le pays puisse bénéficier. Aujourd'hui, on parle de bourse au niveau des études de secondaire, au niveau de l'université. Prenez un monsieur qui prend une bourse qui va étudier à l'université Harvard, par exemple. Il revient ici pour venir apprendre aux jeunes étudiants ce qu'il est allé apprendre. Quelles sont les infrastructures, quels sont les moyens qu'on dispose pour lui? Il viendra ici, il se retrouve vraiment déçu. Et qu'est-ce qu'il va faire? L'État a dépensé de l'argent pour rien. Il va faire une année ici, on ne sait pas le payer correctement. Il ferme ses bagages, il rentre, et c'est une autre personne, une autre
voilà.
Pays qui va bénéficier. Qui
va bénéficier. Merci beaucoup.
Donc, je voulais
Oui, si vous voulez conclure rapidement, Arsène.
Oui, je voulais dire ceci. Nous devons savoir qui donne la bourse, pour quel but, et ça, comprenons que nous devons mettre de l'ordre chez nous pour que nous puissions bénéficier de ce que nous faisons.
Merci beaucoup Arsène. Jonathan, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Jonathan.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour également à l'invité.
Oui, vous avez la parole Jonathan.
Merci. Moi j'ai des patients en vague. Et j'ai sorti la tête proche en restant avec 100%. Je m'y arrête. savoir, j'ai des questions pour notre invité. La première, c'est de savoir quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier des études universitaires au niveau de l'étranger. Et la deuxième, c'est juste une question de curiosité, parce qu'il venait de soulever un point capital. Il paraît en allemand, les études universitaires sont gratuites. Et j'aimerais que l'invité puisse nous expliquer très bien qu'est-ce que ces universités-là puissent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire vraiment pour venir s'implanter sur le territoire congolais et quelles sont les conditions auxquelles elles doivent remplir pour continuer avec les...
Voilà, Jonathan, je crois que pour toutes les questions précises par rapport à cette, à cela, à la fin, nous allons donner les numéros peut-être de FEMAP pour que vous posiez toutes les questions. Donc ici, nous réfléchissons par rapport à la thématique, hein, mais c'est pas exclu. À la fin, on peut peut-être balancer les numéros pour que vous ayez les débats au micro avec notre invité par rapport à toutes ces questions de précision. André, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, André.
Oui, merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Moi, j'ai fait une petite contribution.
Oui, allez-y.
Mais avant de déposer ma contribution, j'aimerais un peu mettre des commentaires là-dessus. Comme moi, ici à Kananga, vous parlez pour ce qui concerne la bourse. Je n'ai jamais assisté à une cérémonie d'une bourse ici à Kananga. Moi, on a beaucoup d'universités ici à Kananga. Je n'ai jamais suivi même des murmures que non, ici à Kananga, on a attribué une bourse à un étudiant. Ou bien, je demande maintenant, est-ce que le gouvernement se fonde seulement pour les restes des provinces et il ne se fonde pas pour toutes les provinces? Ça, c'est de un.
Oui.
De deux, est-ce qu'il y a le critère pour attribuer une bourse à un étudiant? Est-ce qu'il y a des critères pour attribuer une bourse à un étudiant? Si tel est le cas, je demande à l'invité de me donner un peu les explications là-dedans.
Merci beaucoup. Alors, quand il s'agit là de questions directes, hein, Bertin, bon, vous êtes coordinateur général de FEMAP. FEMAP, c'est cette structure qui travaille dans l'accompagnement et l'encadrement des étudiants qui désirent, en fait, poursuivre leurs études à l'étranger, dans des grandes universités. Alors, à ces jours, par rapport à toutes ces questions, c'est vrai, bon, on avait déjà abordé la question sur les conditions, l'aspect Allemagne, gratuité, tout ça. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'un individu, seul, dans son coin, peut, mener des démarches pour aller peut-être étudier à l'Allemagne où il faut absolument passer par des structures qui sont en partenariat avec les universités.
Nous,
telles que FEMAP.
On est là pour l'orientation. Une personne peut aussi tenter de faire lui-même. C'est toujours faisable. Cependant,
il y a une question de crédibilité.
Bien sûr. Parce que vous voyez, quand on vient comme ça, on ne vient pas au hasard. Bon, les gens peuvent cliquer sur le site internet, contacter, par exemple, Eurasia, institution d'Allemagne. C'est une grande question que je viens de dire. Il est notre partenaire qui fait ce qu'avec lui, nous facilitons facilement les candidats intégrés des universités, par exemple, d'Allemagne. Nous faisons ce que nous pouvons faire en amont, mais il y a d'autres aussi. Responsabilité que le candidat lui-même devra donc faire. Par exemple, je vais aller tout droit. Donc, pour étudier en Allemagne, il faut maîtriser la langue allemande. Ce qui est normal, parce que tu dois pouvoir évoluer, ça, ils sont comme ça, ils sont conservateurs. Il y a deux possibilités de le faire. Tu les fais au niveau du pays, ou bien tu vas le faire au niveau de l'Allemagne. L'année préparatoire des langues, ce n'est pas au sein de l'université, c'est au sein du centre. Cette année-là est payable. Pourquoi? Parce que même si tu fais, si tu vas dans un centre, même si tu es au centre de l'ambassade, tu dois payer. Là, les parents doivent comprendre, les candidats doivent comprendre qu'il a sa part de responsabilité. Hormis de cela, il y a les conditions sine qua non de la migration allemande. Nous, nous faisons l'essentiel. On prend l'inscription, on vous intègre au sein de l'université pour avoir la bourse. On va avoir même 60%, parce qu'on exige que les candidats aient plus ou moins 65% pour avoir cette bourse, cette intégration. Mais nous sommes
pour arracher une inscription à l'Allemagne.
Bien sûr, mais nous sommes allés plus loin avec le partenaire qui s'est intégré à un programme spécial qu'on appelle WILDAO, qui permet à un candidat qui a même 55% par exemple de renforcer tout ce qui passe en Allemagne et de bénéficier de cette bourse. Nous, nous avons fait plus ou moins le plus dur, parce que s'inscrire au
ministère du travail que le gouvernement devait faire,
Je le dis toujours, pas seulement le gouvernement, les privés doivent se mettre debout. Les agences d'éducation internationale existent partout au monde, ça existe partout au monde. C'est tout simplement s'il y a un appui, là où le gouvernement ne sera pas aussi peut-être arrivé. Donc il faut qu'il y ait une composition, il faut donc complémentarité. Voilà, alors, au niveau du visa, l'ambassade, bien sûr, a ses exigences. Nous, on fait l'essentiel, on vous prend tous les documents qu'il faut. Mais voici une condition très pertinente, ça c'est le gouvernement allemand qui l'exige, qui soit boursier, qui ne soit pas boursier. Quand tu pars pour les études en Allemagne, ton titre doit te constituer une subsistance d'au moins une année, okay, dans un compte bancaire, manger, loger, restauration pour toi. C'est ton argent. ces comptes-là seront transférés en Allemagne, tu vas manger le jus comme tu veux. Mais si tu as un frère qui habite en Allemagne, tu peux te prendre en charge, il fait les documents, il va les notarier, et cette critère va quitter. Vous comprenez? Donc, on vous accompagne, vous prenez votre visa. Vous allez étudier là-bas, vous êtes encadré, suivi de près par notre partenaire région. Vous êtes suivi de près. Vous avez un problème auprès de l'université, ils interviennent. Si vous terminez les études, vous allez travailler pendant 3 ans, obligatoirement, pour avoir l'expérience et pour rentrer chez vos pays, pour aller maintenant contribuer au développement du pays. Voilà un peu de façon un peu rapide. Ils doivent aussi savoir, il faut informer vraiment la population, comme la police d'informer. Même si tu arrives à obtenir une bourse gratuite auprès du gouvernement, le gouvernement ne pourra pas te faire les billets d'avion.
Et depuis 2007, FEMAF accompagne les filles et les fils du Congo. Aujourd'hui, on en compte déjà combien que vous avez. Parce que moi, j'imagine que vous êtes quand même une banque de données.
Nous avons
par rapport à ces déficits sur la politique nationale de la formation à l'étranger.
Nous avons nos statistiques pays par pays. Nous totalisons au total 1010 étudiants de la RDC et de l'Afrique. Congo-Kinshasa, Brazzaville, Madagascar, Angola, nous avons même Bénin, on a déjà été envoyé. Si nous prenons seulement pour la RDC, nous sommes à plus ou moins 710 étudiants déjà envoyés dans plusieurs pays, je vais les citer. Nous avons des candidats.
Et la première promotion avait terminé quand?
Oui, la première promotion qui en
2013, si je.
Non.
Bien avant.
Non. Vous savez, quand vous allez étudier, la première équipe que nous avons envoyée aux études, ils sont allés faire la médecine, la gaz et pétrole au niveau de l'Ukraine. Pour faire les études, tu dois avoir fait l'année des langues.
Mm-hmm.
Après l'année des langues, maintenant tu étudies. Tu dois faire plus ou moins 3 ans pour terminer la licence et puis en ajouter 2 pour la spécialisation. Si tu vas au niveau du doctorat, ça dépend de toi. Il y a ceux qui ont terminé, qui sont dans les pays, je peux donner des références de ceux qui travaillent.
Donc vous construisez déjà une banque de données pour le gouvernement.
Mais depuis 2011, on avait arrêté avec l'Ukraine parce qu'il y a eu l'histoire de guerre qui commençait. Non seulement l'histoire de guerre.
Il y a le Canada qui s'est ajouté, l'Allemagne et la France.
Je vous donne l'exemple. Quand nous avons changé directement, on a cherché d'autres orientations. Notamment, il y a le Canada, il y a l'Allemagne, il y a Chypre, il y a la Bulgarie. Je suis allé en Bulgarie, je me suis déplacé. J'ai été surprise de la qualité de la formation bulgarienne. Il ne faut pas te confier parfois aux gens qui disent que non, la Bulgarie, c'est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Oui, ils sont pauvres parce que la jeunesse.
Alors, une question de curiosité, avant que nous repassions de l'autre côté du scandale, parce qu'on va, il nous reste encore une dizaine de minutes. Comment reconnaître aujourd'hui une agence qui accompagne le fils du pays pour aller étudier à l'étranger? Comment reconnaître une très bonne agence? Une agence viable et fiable?
C'est simple. Premièrement, une agence doit avoir ses documents d'autorisation. Tout. Commençant par le ministère de justice et tout ce qui suivent. Donc, un bureau, ils doivent avoir des bureaux viables. Ils doivent avoir des comptes bancaires. C'est parce que vous tentez de faire une organisation, vous aidez. Ils doivent avoir tous les éléments possibles et avoir une adresse fixe. FEMAF a ses adresses sur le boulevard du 30 juin au niveau de Kinshasa. Donc, nous sommes à l'immeuble Golf, juste à côté de la DGM. Nous avons commencé par la galerie Massamba. Nous avons des bureaux fixes à Lubumbashi et Tsaïr. D'abord, ça. D'abord, c'est cette existence. Après cela, il y a un aspect qu'il faut regarder. C'est par rapport à l'orientation. On oriente les candidats tellement là où l'exercice est facile, ou bien on oriente là où l'éducation est bonne.
Parce que de l'exercice, c'est URSS.
Voilà, je voulais y arriver.
URSS Turquie.
Vous voulez, on oriente les candidats là où l'exercice est facile, ou bien, je vous ai donné un exemple. Par exemple, en Inde, l'exercice est facile. Oui. Pourquoi Fémar n'a jamais envoyé, n'envoie pas les étudiants? Au niveau de Zen, par exemple, je me laisse. Des encadrements, je n'ai pas d'encadré fixe, je n'ai pas d'encadré.
Peut-être la formation, la qualité qui est donnée.
Non, bon, peut-être, il y a beaucoup de ceux qui interviennent dans l'orientation.
Bon, je n'entre pas dans le débat, c'est le jugement des valeurs.
Il y a beaucoup de ceux qui interviennent dans l'orientation. L'accréditation de l'université, il faut que les programmes d'université soient accrédités. Quand une personne termine son diplôme, est quand même reconnu. Ce sont des éléments qui interviennent.
Mm-hmm.
D'où nous nous déplaçons avant même d'inscrire un candidat. Ou bien on envoie un délégué pour aller voir l'essentiel, qu'est-ce que c'est fait à ce niveau-là. Vous comprenez le fait que c'est...
Qu'est-ce que vous ne pouvez pas penser maintenant, parce que je comprends qu'il y a vraiment du travail à faire dans ce secteur-là. Pourquoi ne pas proposer, faire un plaidoyer, peut-être proposer un cadre juridique qui pourrait vous protéger, vous, des ONG qui travaillent dans le secteur,
bien sûr.
Avec votre partenaire gouvernement.
Bien sûr, je vous ai dit bien que nous avons déjà fait un pas. Nous avons été officiellement au ministère de la coopération, les dossiers sont en cours, au niveau du secrétariat, sont des dossiers, et au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, à travers le secrétariat général, lui proposer un partenariat, comment même toutes ces structures-là, qui peuvent être encadrées. Il y a maintenant beaucoup d'opportunistes.
Il faut regarder,
parce qu'il faut vraiment être regardant.
Il y aura des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunistes qui peuvent être comme ça.
Il y en a beaucoup qui ou qui amènent des gens là-bas qui abandonnent.
Il y en a beaucoup.
Nous avons vu des cas en 2000, 2001, 2002 à
l'URSS. Pourquoi ils disparaissent? Beaucoup viennent pensant que là-bas il y a d'argent ramassé. Je vous l'ai dit bien. Tenir un bureau du janvier à décembre, pendant une période, que les programmes sont périodiques, c'est pas facile. Alors ils viennent en aventure parce qu'on ne vient pas servir, on vient pour pouvoir chercher de l'argent. Et quand ils trouvent que non, je travaille, oh, je dois supporter, je voyais.
Le fait que l'État ne soit pas regardant, les opportunistes en font les rappels.
Oui, moi je félicite le ministère de l'Intérieur. Il faut un contrôle permanent et de façon régulière. Mais ce n'est pas le ministère de l'Intérêt. Par contre, le ministère de l'Éducation devrait agréer les structures. J'écris pour qu'on puisse agréer. Il devrait nous agréer les structures. Mais ça tenait.
Voilà, on va prendre la dernière série des auditeurs. Simon à Matadi, Dieu merci à Manono, Cyril dans le Bandono Ville. Simon, bonjour.
Bonjour.
Voilà, la formation, la facilitation d'études à l'étranger, ça, c'est le débat du jour. Ça vous concerne également. Donc, est-ce que vous avez un point de vue par rapport à ça?
Oui, en fait, j'ai un point de vue sur quatre petits points. En fait, le premier point, c'est que le système d'octroi des bourses existe jusqu'aujourd'hui. Tel que dans l'armée, on voit les gens aller faire des spécialisations dans différents pays pour renforcer ce qui est nécessaire dans l'armée, la police, la médecine. Le gouvernement envoie quand même à l'étranger des gens de cette façon-là. Mais aujourd'hui, l'octroi des bourses n'est plus sélectif. C'est ça le danger. Et c'est pourquoi dans beaucoup de pays, on nous traite d'aventuriers, de moins sérieux, de distraits et parfois de malhonnêtes. Ainsi, compte tenu de toutes ces qualifications, de moins sérieux, tout ça qu'on sort, il y a une naissance des initiatives privées telles que l'invité les parle. Mais le mal pour ces initiatives privées, c'est que nous nous retrouvons devant les universitaires formés à l'étranger, mais inadaptés aux besoins de la nation. Car les structures ne tiennent pas compte du besoin réel de la nation. Tout est fait entre les filières disponibles à l'université de ces pays et la volonté est parfois contrainte du candidat qui est censé, qui se trouve être contraint de faire ce qu'il n'avait pas l'envie ou ce par contre il le fait. Je vous donne un exemple. En 2008, par exemple, le PNUD avait disponibilisé 4 bourses pour renforcer la capacité de quelques gens dans les ministères tels qu'environnement, agriculture, développement, ainsi de suite. Les 4 personnes devraient avoir le profil une post-universitaire, avoir fait la chimie, la nutrition, la biologie ou l'agronomie. Mais tous ces ministères ont envoyé sur leur liste une personne qui avait fait les lettres, l'autre la philosophie, une troisième l'économie, la quatrième personne avait fait les droits, avançant comme raison qu'il n'y avait pas déjà au profil demandé disponible. Et quand à l'étranger, on voyait à Rennes où ils devaient aller étudier, ils ont vu ça, on nous a traités comme des aventuriers. L'exemple à suivre actuellement, par exemple, l'exemple d'actuel gouverneur du Congo central, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 10 personnes qui font le pourcentage le plus élevé aux examens d'État. Il met un équilibre entre les besoins réels de la province et le profil de ces jeunes diplômés. De façon qu'on leur donne les bourses de 5 ans. Et quand ils vont terminer, ils rentreront en province pour renforcer les capacités là où la faiblesse de ses vies. Et cette structure privée, je crois, devrait commencer à collaborer avec le gouverneur des provinces pour essayer de les orienter par rapport aux universités disponibles au fond les profils nécessaires aux besoins de la province.
Merci beaucoup,
le fait
Simon, voilà, merci. Voilà, Bertin, on va conclure. Dieu merci à Manono, Cyril.
Il abandonne nous, donc on va. On est vraiment presque à la fin de cette émission. Ce n'est qu'une partie de l'émission. On vous accordera la parole peut-être très prochainement. Alors, maintenant, on va conclure par rapport à cette dernière réaction.
Oui, ce qu'il a dit est tout à fait réel. Nous sommes nos parlementaires du ministère de l'Intérieur et nous avons envisagé le partenariat avec différents gouvernements. Parce que la bourse, ce n'est pas seulement l'État central qui doit la donner. Un gouvernement peut prendre en charge, c'est ce qu'on appelle bourse. Un gouvernement peut prendre en charge des frais d'études des candidats qui étudient à l'étranger, par exemple aux États-Unis, mais ça s'appelle bourse parce que c'est quelqu'un qui a supporté. Ça, c'est encouragé. Pas seulement ça. L'État peut s'organiser pour instruire les entreprises. Les entreprises peuvent contribuer. Ce sont des initiatives privées. Ils peuvent contribuer pour que, dans les avantages qu'ils donnent aux agents des cadres, qu'il y ait aussi une marge de frais pour les études de leurs candidats. Je veux faire citer, par exemple, une structure comme la BAD de la Banque africaine, donc de développement. En tout cas, ils font étudier beaucoup de candidats au niveau de l'étranger. Ils prennent en charge les enfants de leurs travailleurs. Ça, c'est à encourager. Je vais encore, donc, c'est peut-être un point, qui a été oublié.
Oui, ce sera peut-être pour la dernière.
Bien sûr,
oui.
Nous sommes là pour faciliter les candidats. Nous voyons la difficulté que rencontrent les candidats qui viennent des provinces, qui sont très loin pour venir à Kinshasa. Il y a toutes les institutions pour aller étudier.
Et FMA fait quoi?
En attendant la décentralisation, nous allons en province.
Est-ce que vous avez des représentants?
Nous sommes déjà arrivés à un point comme Beni, nous sommes déjà arrivés à un point comme Kasumbalesa, comme Kassindi, comme je disais hier, mais nous sommes limités. Nous avons écrit aux représentants de la MONUSCO, que nous saluons d'ailleurs, une lettre pour demander d'aider quand même les candidats qui viennent des provinces. Payer un billet d'avion qui était par exemple un point comme
Kinshasa.
Arriver d'abord à Kinshasa, prendre un séjour pour attendre les ambassades qui exigent la présence physique, c'est un coup de plus. Et si ils peuvent nous aider quand même avec les agents de la MONUSCO, on commence à aider les candidats.
Voilà. Alors, je crois que pour le contact des questions de précision, les gens aimeraient bien le savoir. On réglera peut-être cette thématique très prochainement. On vous contacte à quel numéro?
09
oui.
95
oui.
99
oui.
89 34. 09 95 99 89 34.
Merci Bertrand Ngoï, coordinateur général de FEMA, la Fondation des ennemis de la misère en Afrique. Avec vous, on a abordé la question sur la falsification des études à l'étranger. Merci également à Héritier Sidiakala qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Pézabonda, une émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Lola Moulamba. À très bientôt.